c'est un sujet qui traite de façon générale de l'importance de l'action, la valeur de l'action, la valeur de la neshama. Donc, le Midrash dit, Yalkut Shimoni Vayeshev. La Torah t'enseigne de quelle façon se conduire. Chez Adam osé mitzvah, yéosé ota belef samer. Quand on fait une mitzvah, mais il faut veiller de la faire avec un cœur joyeux. Pas pour un fardeau, mais que tu sois content de la faire. Alors pourquoi? Alors, Al-Khot Tzadikim nous dit qu'une mitzvah que tu fais dans la joie, elle vaut 1000 fois plus que si tu l'avais accomplie, alors que tu considères que c'est un fardeau, c'est un poids, ça te dérange. Elle vaut 1000 fois plus. Et entre parenthèses, nous dire à Volbeck que quand les Bala Moussa parlent de 1000 fois, c'est pas une exagération de façon de parler, c'est 1000. C'est pas 999 fois, mais c'est 1000 fois plus. Donc, en général, c'est très important de s'investir dans la mitzvah avec cœur et âme, dans la joie, parce que comme ça, tu vas décupler ta mitzvah 1000 fois plus. Quand on a de l'argent à investir, alors on fait le tour des banques pour voir quel pourcentage, 5%, 10%, 15%, 20%. Bien que je fais le tour, ça va me prendre une semaine, deux semaines, et en attendant, j'ai perdu. J'aurais pu gagner de l'argent. Mais je suis prêt à perdre deux ou trois semaines pour vérifier quelle banque me donnera le meilleur pourcentage, parce qu'ensuite, n'est-ce pas, je vais gagner encore plus lorsque je vais récupérer ce pourcentage élevé de la banque. Pas aussi pour la mitzvah, ça vaudrait la peine de s'investir pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, pour s'habituer à faire la mitzvah mitor simcha dans la joie. Parce que ta mitzvah, elle est décuplée 1000 fois plus. Top, c'était une parenthèse. Le Midrash poursuit et dit, pourquoi, n'est-ce pas, on doit faire la mitzvah dans la joie? Sheilu ayayudar Reuven, Shakash Bokhu, Kotev Acharav Ishmar Reuven, Atzim Yadam, Biktefav, Ayatoano, Molicho, Etzlaviv. La Torah nous raconte que Yosef a été sauvé, plus ou moins, par son frère Reuven. Les frères voulaient le tuer. Alors Reuven leur a dit, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans le puits. Top. Et la Torah a dit, Vayatsileu miyadam, il a sauvé Yosef de ses frères. Alors, Reuven, il a fait une mitzvah. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne s'est pas rendu compte à quel point son action allait être consignée par la Torah de façon éternelle. C'est écrit dans la Torah, n'est-ce pas, de façon éternelle, Vayatsileu miyadam. Vous savez, un mot de la Torah, une lettre de la Torah, quelle importance ça a? La Gemara dit que Rabbi Akiva, il enseignait des monticules, des tilim shel halachot, des montagnes de halachot sur chaque petit tag qu'il y a sur les lettres. Il y a certaines lettres de la Torah, Shatnez, Gatz, sur lesquelles il y a trois petits traits, Shin, Ayin, etc. Et Rabbi Akiva, il enseignait des montagnes de halachot sur chaque petit tag. Une lettre dans la Torah, ça a une importance infinie. À plus forte raison, quand on parle, n'est-ce pas, d'une phrase entière que Reuven a sauvé son frère, si Reuven se rendait compte de l'importance de cette action, eh bien, il se serait efforcé encore plus de vraiment sauver son frère, de le ramener chez son père, pas uniquement le laisser dans ce puits-là. Le Midrash poursuit. Il va aider Aaron, pas aussi Aaron à Cohen, lorsque Moshe a été nommé pour aller sauver les bénis Israël d'Égypte. Alors, Moshe a refusé pour plusieurs raisons. Une des raisons, eh bien, Moshe craignait que son grand frère Aaron, qui était plus âgé que lui de 3 années, eh bien, allait être plus ou moins jaloux de sa nomination, alors qu'il était jeune frère. Alors Hachem a dit à Moshe, tu vas pas t'inquiéter. Veracha besamar bilibo. Il va te voir et il sera réjoui, il sera très content que tu aies été nommé pour une mission si importante. Eh bien, nous dit le Midrash, si Aaron avait imaginé que cette joie qu'il avait de rencontrer Moshe et d'apprendre qu'il a été nommé pour sortir de Israël, eh bien, cette joie allait être consignée de façon éternelle dans la Torah, eh bien, sa joie aurait été encore plus décuplée. Troisième exemple du Midrash, qui concerne d'ailleurs Shavuot, Ilou a aidé à Boaz, Boaz, n'est-ce pas, a donné à Ruth, quand Ruth, n'est-ce pas, est venue travailler dans son champ, eh bien, il lui a offert un cadeau, pas grand-chose, des céréales grillées, des graines grillées. Mais même cette action, même ce don qui était plus ou moins modeste, a été consigné par le Tanakh. C'est écrit, n'est-ce pas, dans la Megillat Ruth, que Boaz a donné cela à Ruth. Eh bien, si Boaz avait imaginé que son action, sa tzedaka, son chesed, allait être consigné éternellement, eh bien, il aurait servi à route, non pas quelques graines grillées, mais vraiment un veau farci, dit le Midrash. Et terminé le Midrash, les She'avar, ayadam osem mitzvah, vanvi imkodvi mota. Auparavant, un homme faisait une mitzvah, et cette mitzvah, elle était écrite, consignée par les Nevi'im, les prophètes. De nos jours, on n'a plus de prophètes. Mikotevota, quand tu fais une mitzvah, qui va l'inscrire? Dit le Midrash, Eliaou ou Mashiach? C'est Eliaou Navi et le Mashiach qui vont inscrire ta mitzvah. Elle est inscrite au ciel. Vakash Baruchu, Chotem. Et Hachem, il signe. Quand tu fais une mitzvah, cette mitzvah, elle est écrite par Eliaou Navi et le Mashiach. Cette mitzvah est signée par la main d'Hachem. Et à la fin des temps, de Korbezat Hachem, eh bien, tout va être dévoilé. On va te montrer, te démontrer quel était le nombre de tes mitzvot, quelle est aussi l'envergure de tes mitzvot. C'est pourquoi dit le Midrash, quand on fait une mitzvah, il faut veiller de la faire, belève sa mère dans la joie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'imaginer ce que tu fais. C'est, on ne s'imagine pas. On a dit plusieurs fois l'exemple. Si tu donnes à un petit enfant, un enfant de 2-3 ans, un billet de 100 euros, eh bien pour lui, c'est un chiffon de papier. Il va le jeter, le déchirer, gribouiller dessus, parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Donne-lui un diamant, une pierre précieuse qui vaut des millions d'euros, pour lui c'est un caillou, il va le jeter, parce qu'il ne le connaît pas. Mais pareil aussi, pour nous, c'est que quand on ne connaît pas la valeur de la mitzvah, eh bien on peut la jeter. On peut ne pas lui accorder l'importance qui est nécessaire. Et on voit que même des grands, des géants de la Torah, comme Reuven, ainsi que Aaron à Cohen, ainsi que Boaz, on fait une mitzvah. Ils ne se sont pas rendus compte que leur mitzvah allait être marquée, signée dans la Torah de façon éternelle. Alors, dit le Midrash, même si on n'est pas conscient de cela, même si c'est difficile de se rendre compte réellement de la valeur de la mitzvah, et bien cependant, fais un effort de faire la mitzvah de façon parfaite, dans la joie, avec un corps joyeux, parce que tu ne peux pas t'imaginer de ce que tu fais. En prenant... Gava, ok, très bonne question. Alors Rav Dessler dit là-dessus, Yediat Haemet Enagava. Savoir la vérité, c'est pas de l'orgueil. Savoir la vérité, c'est te mettre sur ta responsabilité. Imagine-toi, le président de la République, française ou américaine, va dire, j'ai envie de sortir en short, en caleçon, dans la rue. Il va dire, non, je ne le fais pas parce que je suis un président. Il va dire, non, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Sortir dans la rue de façon mal habillée pour un président, eh bien, c'est se moquer du monde, c'est se moquer de son pays entier. C'est se moquer, n'est-ce pas, des millions d'habitants qu'il y a dans ton pays qui te considèrent, t'apprécient en tant que président. Et c'est faux de dire, c'est de l'orgueil de vouloir, n'est-ce pas, être toujours bien costumé, bien habillé. C'est pas ça. Lorsque tu te rends compte de l'importance que tu as et tu respectes cette responsabilité que tu as, cette mission de la mener à bien, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de vanité. Au contraire, c'est un devoir.
Comment on peut s'en rendre compte? Même si on sait que ça a une importance, mais on n'a pas d'unité de mesure, on ne peut pas comparer à quoi que ce soit.
Le Midrash dit la chose suivante, c'est que tu as une mission à accomplir. Tu dois te rendre compte de la valeur réelle de la mitzvah. Et tu dois te conduire selon cette valeur réelle. Maintenant, l'orgueil et la modestie, c'est une autre question. Mais ce n'est pas pour être soi-disant modeste que je vais faillir à mon devoir. Comme ce président qui va mal s'habiller, pour être modeste, c'est faillir à son devoir. Tu dois, n'est-ce pas, te conduire comme un président. Tu dois te conduire, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui respecte la Torah et la mitzvot. Maintenant, il y a un problème d'orgueil, ça se travaille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le travailler, c'est vrai, on doit travailler la modestie. Mais ce n'est pas pour être modeste, soi-disant, que je vais faillir à ma mission et faire ce que je ne dois pas faire. Tu veux dire que l'effort est moins grand? En effet, mais c'est là aussi, c'est si on n'a pas de simcha et donc on doit faire plus d'efforts, hein, et c'est pas une bonne façon d'agir. Pourquoi? Parce que là aussi encore, tu es en train de faillir à ta mission et tu es inconscient de la valeur gigantesque de la mitzvah et à cause de ça, grâce à cela, tu es en train, n'est-ce pas, de faire plus d'efforts. Alors c'est vrai que tu seras récompensé pour l'effort, c'est vrai, mais tu auras encore plus perdu parce que tu ne te rends pas compte pas de l'importance de la mitzvah. En fait, tu vois, si tu parles de cela, la perfection, c'est de réaliser les deux. C'est-à-dire que de se remplir de simcha et aussi de faire un effort, de faire la mitzvah de la façon la plus parfaite possible. Parce que la simcha, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Mis à part cela, le fait d'arriver à la simcha, ça demande en général beaucoup d'efforts. Parce que bon, il y a des mitzvot qui sont sympathiques, qui sont intéressantes, pas qui sont passionnantes, mais d'autres qui sont un peu barbantes en nuances. Alors pour arriver à la simcha, il faut se lever de bonne heure, il faut vraiment travailler pendant des semaines et des mois pour réellement, n'est-ce pas, métamorphoser ta personnalité, de faire la mitzvah dans la simcha, et là tu es récompensé pour cette simcha. Entre parenthèses, il y a aussi un point important à signaler ici, c'est ramené dans une lettre de Rabbi Israël Salanter. En effet, quand Hachem nous récompense, eh bien, comme tu viens de dire, les fonds de Sahara gras, Hachem te récompense selon l'effort que tu as fourni. Top. C'est-à-dire que plus la mitzvah était difficile à réaliser, plus tu vas être récompensé. Plus elle était facile, alors bon, il y a la récompense, mais elle est moins grande. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, nous dit Rabbi Israël Salanter, si quelqu'un, il avait une grande difficulté pour faire la mitzvah. Par exemple, la tefila, ça ne lui dit rien. L'étude de la Torah, c'est dur, il ne comprend rien. Alors bon, le Shabbat, c'est très difficile, n'est-ce pas? Il perd beaucoup d'argent le Shabbat quand il ne travaille pas. Bon, et cet homme-là, il s'est maîtrisé, il s'est travaillé pendant des années et des années pour s'efforcer de faire la tefila, la Torah, le Shabbat. Et il a réussi, après 2 ans, 3 ans, 5 ans de travail, de faire la mitzvah dans la perfection. Non seulement cela, il est tellement habitué à la mitzvah, il s'est tellement intéressé à la mitzvah, il s'est tellement travaillé que dorénavant, eh bien, cette mitzvah pour lui, c'est un kiff extraordinaire. C'est sa joie, son bonheur. Après 5 ans de travail, eh bien, toute sa vie, c'est devenu un kiff extraordinaire. De dire à Rabbi Israël Salanter, cet homme-là sera récompensé toute sa vie au monde futur, comme s'il a accompli cette mitzvah avec une extrême difficulté. Pourquoi? Parce que de par sa nature, son caractère, il n'est pas intéressé par la tefila. Le samedi, c'est très difficile à respecter pour lui. L'étude de la Torah ne lui dit rien. Cette métamorphose, c'est lui qui l'a réalisée en soi. Donc tout le mérite lui revient. Et pendant toute sa vie, pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 120 années, eh bien, il aura, n'est-ce pas, un mérite pour la mitzvah, comme s'il avait une difficulté tous les jours qu'il maîtrisait constamment. Donc en fait, c'est bien d'y penser parce qu'on te demande de faire un effort qui va durer quelques mois. Dans certains cas, quelques années. Et une fois que tu es habitué, la mitzvah est déjà, n'est-ce pas, un bonheur extraordinaire et tu es récompensé de façon bien plus grande que tu imagines.
Alors, on peut expliquer en quoi la simcha, c'est le fruit d'un travail et non pas une argacha, comme on entend souvent.
Une argacha, voilà, c'est vrai que la simcha, ça peut être un sentiment de joie, une effervescence, une ferveur, c'est bien aussi, mais ce n'est pas encore la perfection. Parce que ça peut provenir d'un sentiment, je veux dire, d'une joie extérieure, qui n'est pas travaillé, qui n'est pas géré, qui n'est pas dirigé. Des fois, ça peut être un sentiment qui est lié, même, je veux dire, à un souvenir d'enfance. Que bon, qu'on se rappelle, n'est-ce pas, que tel mitzvah, on a fait avec les parents, avec la famille, puis c'était sympathique. Et donc, automatiquement, ça a créé en nous, n'est-ce pas, une joie naturelle et normale. Alors, c'est bien aussi, mais ce n'est pas encore la perfection. La perfection, c'est lorsque on va travailler cette mitzvah pendant un certain temps. Alors, comment la travailler? Il faut s'intéresser, d'une part, au halakhot de la mitzvah. D'autre part, il faut s'intéresser aux commentaires de la mitzvah. C'est ce qu'appelle la halakha et la gata. Quand tu t'intéresses à un sujet, c'est n'importe quel sujet, en général, n'importe quel sujet que tu travailles pendant des années, même les mathématiques, la physique et la chimie, en général, eh bien, ça nous passionne. Parce que quand tu t'intéresses, tu vas t'investir. Tu investis ta personnalité dans cette matière. Eh bien, après un certain temps, ça te passionne, tu es intéressé. Encore plus pour la mitzvah, puisqu'en effet, il y a un lien étroit entre la mitzvah et notre âme, notre neshama. Et donc, c'est plus facile, avec un travail qui est bien dirigé, d'arriver à la simcha dans la mitzvah. Bon, je l'explique de façon très générale. De façon spécifique, il y a encore un plan de travail bien, bien détaillé et bien vaste. Comment travailler pour arriver à la simcha dans la mitzvah? Je récapitule. Que quand tu fais une mitzvah, eh bien, veille à la faire dans la joie, parce que tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il y a derrière. Tu ne t'imagines pas ce que c'est. Ne fais pas l'erreur que fait l'enfant qui va jeter ce caillou, alors qu'en fait c'est un diamant qui vaut des millions. Ta mitzvah, elle vaut plus que des millions. Et fais-la avec toute la joie possible, parce que tu ne peux pas t'imaginer qu'elle va être consignée éternellement par Eliyahu HaNavi, le Mashiach, et signée par Akadosh Baruch Hu. Dans le même ordre d'idée, par rapport à la Neshama, notre âme, on ne connaît pas la valeur de la Neshama. À cela, on va ramener ce qui est rapporté dans le livre Magid Mesharim. Magid Mesharim, c'est un livre qui a été rédigé par Maran Abet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Ça fait environ 400 et quelques années. Le Bet Yosef, qui a rédigé Shulchan Aruch, la lachot qu'on a de nos jours, c'est de lui essentiellement. Eh bien, il y avait un Magid, comme un genre de malach d'ange, qui venait presque tous les soirs lui dévoiler des secrets de la Torah. Bon, et un beau jour, le Magid, le malach, est venu chez le Bet Yosef. Il lui a dit, bien, ce soir, je vais te dévoiler quel est le Shoresh Neshama de ton épouse. Quelle est la source de l'âme de ton épouse. Pourquoi? Parce que bien que tu la respectes et tu l'honores, mais quand tu sauras de qui s'agit-il, quand tu sauras quel Neshama, quelle âme a ton épouse, eh bien tu vas l'honorer encore plus. Bon, il a dévoilé quelle était la source de l'âme de son épouse. Bon, c'est des notions kabbalistiques qu'on ne connaît pas, d'ailleurs c'est pas amené dans le livre. Mais qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend d'ici que bien souvent, on peut mener une vie pendant des dizaines d'années, 120 ans. Et lorsqu'on va arriver au monde futur, eh bien tout d'un coup, on va te dévoiler, on va t'expliquer quel était le Shoresh Neshama, quelle était la base, la source, la racine de l'âme de ton épouse, de ton mari, de tes parents, de tes enfants, de tes camarades, de tes voisins. Et là, tu vas déclarer, tu vas te dire, si je savais, si j'avais imaginé que j'avais affaire à une telle personne, à une telle Neshama, une âme si grandiose, si gigantesque, une âme qui a des capacités spirituelles si grandes, eh bien, je l'aurais encore plus honorée, plus respectée. Mais évidemment, c'est trop tard. Quand on est au monde futur, on ne peut plus réparer. C'est terminé. Et c'est bien dommage. Non seulement cela, c'est écrit que lorsque tu arrives au Olam Haba, au monde futur, on va te dévoiler quel est ton propre Shoresh Neshama. On va te dévoiler quelle est la source de ta Neshama, ton âme à toi. Et là, tu vas t'exclamer, quoi, j'ai une telle Neshama, une telle âme? Si je savais, eh bien, je me serais plus respecté. C'est des fois, on se méprise soi-même. On se conduit de façon qui n'est pas honorable, qui n'est pas gracieuse, de façon trop banale, trop médiocre, trop basse, trop mesquine. Pourquoi? Parce qu'on oublie l'importance, la valeur de notre âme. Et lorsqu'on va, n'est-ce pas, nous montrer quelle est la grandeur de notre âme, les capacités morales, intellectuelles, spirituelles de la Neshama, eh bien, là, on va se tirer les cheveux et dire que si je savais que mon âme était si grandiose, eh bien, j'aurais été prudent. J'aurais fait bien attention de la conserver, de l'honorer, de la respecter, de l'élever. Mais évidemment, c'est trop tard. Alors vous savez, en fait, quel problème? Notre problème, c'est qu'on s'identifie beaucoup trop à notre corps. Quand tu vois quelqu'un qui arrive en face de toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, est-ce qu'il est grand ou petit? Est-ce qu'il est gros ou maigre? Est-ce qu'il est beau ou moche? Est-ce qu'il est brun ou clair? Etc. Tu vois uniquement l'apparence extérieure. Alors, il est vrai que l'apparence extérieure, ça a aussi une certaine importance, dans certaines conditions. Là aussi, il faut vérifier par l'esprit de la Torah quelle est l'importance de chaque apparence extérieure. Pas se fier, n'est-ce pas, aux mœurs, civilisations occidentales dans laquelle on a grandi. Parce que bien souvent, n'est-ce pas, ce sont des notions qui sont tout à fait loin de la Torah. Des fois, c'est conforme à la Torah, mais des fois, c'est loin de la Torah. Alors là aussi, on doit vérifier que nous dit la Torah. Mais mis à part cela, le plus important, c'est ne pas oublier de s'identifier essentiellement à la Neshama. Tu vois quelqu'un, n'oublie pas qu'il a une Neshama, il a une âme. Toi aussi, il faut t'identifier à ta Neshama. Alors, évidemment, l'âme, bon, c'est une notion qui est un peu abstraite, parce qu'on ne la voit pas, l'âme. Bon. Mais on sait qu'on a une âme, on la sent. Un corps, un cadavre, il est inerte, il ne bouge pas, il ne fait rien. Sans la Neshama, il ne peut rien faire. Bon, mis à part ce qu'on a dit hier, les trois grandes parties qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Mais sans entrer dans ces considérations-là, on doit se rappeler qu'on a une Neshama, une âme, même si on ne se rend pas compte, même si nous sommes inconscients de son importance, de son envergure gigantesque. Mais on sait, on peut le comprendre, on peut le sentir, c'est même palpable, que l'âme est plus grande, plus élevée, plus spirituelle, plus subtile que le corps. Et on ne doit pas faire l'erreur de s'identifier à l'apparence extérieure par rapport à la société, par rapport à la famille et par rapport à soi-même. C'est ce qu'a dit le Beit Yosef, le Maggid, pardon, au Beit Yosef. Il est vrai que tu te rends compte que tu honores ta femme, tu la respectes, mais tu la respectes uniquement selon ta vision. Alors évidemment, la vision du Beit Yosef était déjà très élevée, très objective, très droite. La preuve, c'est que le Maggid lui a rien reproché. Il n'a pas dit, ta femme, tu ne la respectes pas assez. En effet, selon sa compréhension, eh bien, il l'a respecté bien. Mais il a mérité, lui et sa femme ont mérité, qu'on lui dévoile quel était le Shoresh Neshama, quelle était la source de l'âme de son épouse, pour qu'il y ait une meilleure entente entre eux, qu'il y ait encore plus de respect entre eux. Alors si on n'a pas ce privilège, mais au moins le savoir. Savoir, n'est-ce pas ce que dit le Midrash? C'est que si on s'imaginait que notre mitzvah allait être consignée de façon éternelle, ta mitzvah, eh bien, ça ne disparaît pas. Ce que tu fais, eh bien, c'est garder éternellement. C'est garder éternellement. C'est un sujet qui est très général. Pour toute la vie entière, toute l'année entière. C'est que, et un problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'importance de la mitzvah, l'importance de l'action, de sa valeur. On ne se rend pas compte, n'est-ce pas, de l'importance de la neshama. Et d'ailleurs, notre monde moderne nous présente certaines difficultés par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'en effet, de nos jours, on est toujours en train de courir. Sachez, c'est écrit que une des grandes astuces du Yetzer Hara, du Satan, c'est de nous faire courir constamment, de ne pas nous laisser le temps de réfléchir, comme le fameux slogan « métro, boulot, dodo ». C'est-à-dire que tu es en train de courir du matin au soir, pas, tu manges pour dormir, tu travailles pour manger, etc. Et tu ne réfléchis pas, tu ne marques pas un temps d'arrêt. Entre parenthèses, c'est un des bienfaits du Shabbat. Le Shabbat, tu t'arrêtes une fois par semaine, tu marques un temps d'arrêt. Et tu es en train de réfléchir, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Par aussi, tous les jours, trois fois par jour, tu t'arrêtes, faire la tefila. Shachrit, mincha, varvit. Tu marques un temps d'arrêt. On a dit plusieurs fois le machal. Quelqu'un arrive à la gare et voit son train en train de démarrer. Alors il prend sa valise sous son bras et commence à cavaler. Il arrive, miraculeusement, à rentrer dans la dernière porte du dernier wagon. Il s'installe, il est soufflé, en train de transpirer. Après quelques instants, il se rend compte qu'il a pris le train en direction inverse. Il a pris le TGV, non pas Lyon-Paris, mais Lyon-Marseille. Et il est coincé. Alors, bien souvent, ça nous arrive. On est en train de courir, mais on court dans la direction inverse. Après, on nous dit, attention, Shabbat va'inafash. Eh bien, il faut s'arrêter. Le Shabbat, mis à part la tefila, le Shabbat, etc., mitzvot, mais tu te rapproches d'Hachem et tu réfléchis. Tu dis, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Où est-ce que je vais? Je cours toute la semaine. Pourquoi je cours? Est-ce que je suis en bonne direction ou pas? Par aussi, matin, midi et soir. Eh bien, je fais un bilan, n'est-ce pas, par rapport à la journée. On a aussi un autre bilan par rapport à l'année. Rosh Hashanah et Kippour, par rapport à Averot. On est en train, n'est-ce pas, de demander pardon à Hachem à Kippour. On est en train d'entamer une nouvelle année. Lorsqu'arrive Shavuot, là, on reçoit la Torah, le don de la Torah. Eh bien, là aussi, c'est le moment de faire un bilan. Qu'est-ce que je suis par rapport à la Torah? Quelle est ma place par rapport à la Torah et les mitzvot? Je viens accepter la Torah Shavuot, Hachem vient me donner la Torah. Alors, avant d'accepter la Torah, eh bien, faire un bilan. Est-ce que je suis dans une bonne direction ou pas? Et si on médite à cela, on peut vraiment bien avancer, s'améliorer, à condition de prendre cette décision. Que lorsqu'on fait une mitzvah, eh bien, même si on ne se rend pas compte de sa grandeur, son importance, le fait de le savoir que la mitzvah est plus grande que j'imagine, eh bien, je vais faire un effort de la faire de façon parfaite dans la joie. Mis à part la mitzvah en soi, l'action de la mitzvah, cette mitzvah est réalisée par ma neshama. Non pas uniquement par mon corps, mais ma neshama qui a une valeur qui est inestimable, qu'on ne peut pas mesurer par un, par un centimètre matériel de nos jours, mais c'est une notion spirituelle qui nous dépasse. Même si on n'arrive pas à s'en rendre compte, mais le fait de le savoir et de faire un effort dans ces directions, cette optique, ça peut nous permettre d'exploiter bien plus les forces de la Neshama. Mis à part cela, c'est que si on fait ces efforts-là, eh bien, on bénéficie d'une certaine Neshama, d'une aide divine remarquable pour nous aider à bien mener cette mission. Tout va se faire.